Il est 8h. Belle journée à tous sur Europe 1, la suite de la matinale avec Isabelle Moreau.
Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la matinale week-end qui se poursuit avec, dans un instant, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Il va recevoir Elisabeth Roudinesco, universitaire, historienne et psychanalyste. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité, en bref, et ces mots, un mal sans limite, une horrible atrocité, indignation totale des Occidentaux après le bombardement russe sur la gare de Kramatorsk où des civils tentent de fuir la guerre. Au moins 52 personnes ont été tuées, dont des enfants. Moscou nie toute responsabilité. Le président ukrainien demande, lui, une réponse mondiale forte. La Russie, comme chaque année, fêtera le 9 mai prochain, le jour de la victoire, jour de la capitulation de l'Allemagne nazie. C'est donc dans un mois tout juste. Et selon le renseignement américain, Vladimir Poutine rêve d'une victoire en Ukraine, précisément pour cette journée très symbolique. Et puis le Covid, alors que quelques 200 millions de Chinois sont actuellement confinés dans des conditions drastiques, les feux repassent au vert en France. Le pic du rebond semble derrière nous, avec entre 140 et 150 000 cas par jour. Les bureaux de vote s'organisent pour respecter les conditions sanitaires. Tout de suite, place à l'interview, Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue Elisabeth Roudinesco. Isabelle avait raison, vous êtes psychanalyste, enseignante, historienne, écrivaine et redoutable débatteur. Ça, je m'en souviens. Bonjour.
Bonjour.
C'est au tour de la France de connaître le succès de la deuxième saison d'En Thérapie. Des millions de gens le regardent ici et dans le monde. Et les gens se sentent concernés. C'est un incroyable phénomène qui veut dire beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut dire ?
Je vais d'abord rendre hommage en deux minutes à mes amis ukrainiens, universitaires de l'Université de Kiev et psychanalystes à Kiev, avec lesquels je suis en contact.
Oui, et qui continuent à travailler ?
Oui, bien sûr, comme ils peuvent. Hein, oui. Parce que
alors, que veut dire ce phénomène, cet intérêt ?
Cet intérêt pour En Thérapie, que je trouve moi très bien, hein, dans le cadre de séries, c'est très particulier. Je pense que... Alors que la psychanalyse est évacuée de la quasi-totalité, il n'y en a plus en psychiatrie, il n'y en a plus, ça diminue dans l'enseignement. Et c'est devenu, en revanche, un objet culturel qui passionne tout le monde.
Pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui ? Pourquoi tant de gens regardent une série et celle-là ?
Eh bien, parce que ça rend vraiment la vérité de ce que peut être la cure psychanalytique telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Vous avez remarqué que c'est en face-à-face, qu'il y a beaucoup de dialogue, qu'il y a une empathie formidable du psychanalyste, hein, parce que c'est la psychanalyse pour le patient.
Il n'est pas derrière le divan.
Non, c'est parce que ce qu'on appelle la cure type, c'est-à-dire la cure classique divan-fauteuil, elle existe toujours, mais de moins en moins.
Alors, c'est dans un décor sobre, un psychanalyste qui reçoit tour de rôle 4 patients au destin douloureux, les 4 nous renvoient à nous-mêmes.
Oui, et lui aussi, et on peut le dire, puisqu'il a une superviseuse, oui. il va parler de
moi,
ça.
Moi, je veux avoir le sens de ce que ça veut dire. La manière dont les psychanalystes fonctionnent, c'est autre chose. Mais pourquoi nous regardons ce qui a l'air d'être nous, de regarder quelque chose qui nous renvoie à nos propres vies ?
Mais parce que c'est passionnant pour les gens de voir comment on peut explorer, pas seulement avec de la psychologie de bazar, comment on peut explorer son inconscient. Parce qu'il répond toujours à la demande en relançant la question de qu'est-ce que vous pensez vraiment, ce que vous avez dit, ça veut dire quelque chose, etc. C'est de la psychanalyse. Hein.
Et donc, ça passionne. Qu'est-ce que ça veut dire de nos sociétés et de la nôtre ?
Ça veut dire que l'inconscient existe dans nos sociétés et qu'on a beau vouloir l'évacuer en permanence avec d'autres types de thérapies qui, surtout, n'approchent pas ces questions-là, et bien, il reste ce qu'il y a de plus
intéressant. C'est-à-dire que, vous dites l'inconscient, c'est-à-dire les souvenirs les plus intimes, les plus cachés,
oui, tout à fait,
remontent à la surface.
Oui, c'est ça. Ou pas seulement, ça peut être aussi le fait que quand on parle... c'est ce que Freud a montré, ce qu'on dit renvoie à autre chose qui n'est pas dit. Et donc, le rôle du psychanalyste, qui est très bien interprété, je trouve, par ce comédien qui est sympathique, humain, enfin, il a quelque chose d'étonnant. Et on sait par ailleurs que...
Ça veut dire qu'il y a un mal-être dans nos sociétés ?
Il y a toujours eu. La psychanalyse existe dans toutes les sociétés occidentales. Il y a d'autant plus un mal-être qu'il n'y a pas de guerre. En temps de guerre, la psychanalyse, c'est autre chose. Mais il y a d'autant plus un malaise qu'on est confronté précisément aux libertés, à la démocratie, et surtout dans les sociétés très individualistes, où, en effet, il y a une absence d'engagement de plus en plus, on est confronté à soi-même.
Vous voulez dire que c'est un luxe des démocraties ?
Justement, c'est plus compliqué. La psychanalyse a commencé par être le luxe des classes bourgeoises qui avaient les moyens de se la payer, et elle est devenue un phénomène populaire. C'est ce que montre très, très bien ce
film. Dans les dictatures, les despotes ne permettent pas qu'on s'interroge sur soi-même.
La psychanalyse a toujours été interdite dans les dictatures. Et elle a, en Russie par exemple, elle s'est réimplantée au moment de la perestroïka. Il y a des psychanalystes, il y en a pas mal. Mais toute dictature empêche la psychanalyse pour la simple raison qu'il n'y a pas un état de droit qui permet la liberté absolue. Et pour pouvoir exprimer librement son inconscient, il faut qu'il y ait une liberté.
Alors, vous dites qu'il y a la guerre ou pas la guerre. Mais quand il y a, comme aujourd'hui, la guerre d'Ukraine, avec les images de morts, mais les morts, les villes rasées, les villes martyrs comme Kramatorsk, comme Bouchta, comme Mariupol, etc., ça s'ajoute aux angoisses, d'autant plus qu'on a le sentiment que ce n'est pas fini.
Ben non, ce n'est pas fini. Bien sûr que ça s'ajoute aux angoisses. Je dirais que la réalité sociale, elle est toujours présente dans la cure. Elle est toujours présente chez les patients, mais à des degrés divers. Il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin de parler de ces phénomènes extérieurs, qui sont concentrés sur eux-mêmes, ça ne veut pas dire qu'ils soient absents. Et l'intérêt, justement, de l'enthérapie, c'est que, vous avez remarqué, ça a toujours été tourné à des moments de traumatisme. C'était d'abord les attentats,
et là
c'est
COVID,
la pandémie, le COVID.
Mais
et donc, c'est présent. Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, les partis et, en même temps, les institutions sont affaiblies, peut-être malades, Dieu est mort, comme disait Nietzsche, les gouvernants sont affaiblis, les intellectuels sont silencieux. Qu'est-ce qui reste ? Est-ce que c'est pour ça, justement, qu'on est troublé ?
Les intellectuels ne sont pas silencieux. Oui. Je ne peux pas laisser
on
dire
les
ça,
entend
parce
pas
que
beaucoup.
Moi, je suis une intellectuelle.
Oui, d'accord. Mais...
Et donc, ils ne sont pas silencieux, quand même. Il ne faut pas exagérer.
D'accord. C'est bien de les défendre.
On parle.
Mais étant donné ce climat général, qu'est-ce qui se reste ? À quoi on s'accroche ? Quand il y a des bombes qui tombent, qui ravagent l'Ukraine, et la certitude que les crimes de guerre vont, hélas, continuer avec des conséquences pour nous.
Non, on s'accroche toujours à l'espoir que ça va s'arrêter, que les dictateurs vont être punis, qu'il va y avoir, à un moment donné, une autre vie. Les guerres sont toujours là, ont toujours provoqué dans l'histoire des changements considérables de société, de psychisme, etc. Les névroses de guerre ont été d'ailleurs très bien étudiées. Il y avait toujours des psychanalystes pour étudier les particularités des névroses de guerre, surtout chez les combattants. Donc, bien sûr que ça entre en ligne de compte. Il y a une crise des engagements. Et c'est vrai que dans nos sociétés, et on le voit, on s'intéresse, société individualiste démocratique, on s'intéresse énormément à soi-même et à ses problèmes à soi. D'où le développement considérable de toutes les cures, pas seulement de la psychanalyse, hein, le développement personnel. Il y a un nombre de thérapies considérables.
Et chacun a envie de
parler de soi.
De parler de soi, oui. De régler les comptes avec son passé. Ça
sûr.
Arrive à chacun.
Et surtout, il y a aujourd'hui quelque chose qui est très anti-analytique, mais qui est nécessaire à des moments de crise, c'est l'aveu public. Vous l'avez remarqué avec MeToo, avec tout ce qui est sorti comme aveu public. L'aveu public peut être nécessaire à un moment donné pour faire sortir quelque chose qui a été refoulé, mais c'est beaucoup mieux après que ce soit en tête-à-tête dans une intimité.
Mais pourquoi souvent c'est la faute des autres ? Du père, de la mère, du frère, de l'école, de la politique, des pouvoirs.
Ça, c'est une vraie question, parce que c'est en partie vrai. Mais tout le travail de l'analyse, c'est d'interroger le sujet sur le fait, justement, que cette faute aux autres devient invivable si on croit toujours qu'on n'y peut rien, que ça vient des autres.
C'est vachement compliqué, votre truc.
Hein? Non, on doit à un moment donné dire, et vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Et d'où vient votre malaise? Pourquoi vous ne vous défendez pas? Et vous ne pouvez pas vous enfermer dans la victimologie.
Mais pourquoi il y a des sociétés qui se sentent mal alors qu'elles ont toutes les raisons d'être heureuses et qui passent du découragement à la rébellion? Pourquoi
Autres sociétés, il y a la même chose, mais c'est refoulé par une situation. Quand vous êtes dans une société totalitaire, bien sûr que vous avez un inconscient, bien sûr que vous allez mal psychiquement, mais ce qui domine, c'est la survie, c'est l'absence de liberté.
C'est exactement ce qui est en train de se passer. En Ukraine, eux au moins, je ne sais pas s'ils réfléchissent à leur inconscient,
mais
ils se battent pour leur survie, pour leur indépendance.
Donc pour la liberté de parole, donc pour la liberté de pouvoir explorer son inconscient. Ça, c'est un paradoxe qui a toujours existé.
Et ce qui me frappe aussi, c'est que le psychanalyste Lacan disait il faut qu'il soit un saint ou il doit être un saint, d'après ce qu'on entend dans thérapie.
Attention à tous les apocryphes.
Oui. Mais il doit impassible écouter ce qu'on lui dit, y compris les injures, les brutalités du patient vers lui. Et dans thérapie, le docteur est obligé, ça doit arriver quelquefois en psychanalyse, vous êtes incapable de nous sauver, vous servez à rien.
Oui, c'est-à-dire qu'un psychanalyste ne peut pas prendre pour lui ce qui vient de la violence des patients. Je vous ferai remarquer quand même que en thérapie, ils ont très bien choisi, c'est essentiellement des névrosés. Il n'y a pas de fou. Parce que ça, bon.
Mais je vais citer quand même les comédiens, parce qu'ils sont,
Très
formidables.
Bons,
les acteurs oublient qu'ils sont des acteurs. Je les cite, Frédéric Pierrot, Charlotte Gainsbourg, l'adolescent Alyosha Delmotte, Aïdara, Jérôme Lindon, et l'exceptionnel Jacques Weber.
On ne reconnaît pas.
Non, il fait plus penser au patron qui est troublé, brisé, qu'à l'acteur lui-même.
C'est la caractéristique de ces séries. C'est justement d'être des gens ordinaires. Et il n'y a pas de star. Et quand il y a une star, elle joue dans la série une personne
c'est
ordinaire.
C'est pour ça qu'elle nous renvoie à nous-mêmes.
Oui, les séries, et ça en est une, ça renvoie à la vie quotidienne de chacun.
De quoi avons-nous besoin ?
De cette identification-là, c'est-à-dire d'être montré sur l'écran ce qu'on est nous-mêmes. C'est la caractéristique de notre époque et de ce type de film.
C'est-à-dire aider chacun à savoir qui il est, quelle est sa place dans la société, quel est son rôle et qui il est.
Oui, c'est vrai que ça sert aussi à ça. Mais c'est intéressant que ce soit là une émission qui montre vraiment la psychanalyse. Ça veut vraiment dire que tous ceux qui ont espéré qu'elle allait disparaître, que c'était une cochonnerie, que Freud était un assassin ou je ne sais pas quoi, ça montre que ça revient là où on ne l'attend pas. C'était inattendu.
Et la cure n'est jamais finie, si je comprends bien.
Ce n'est pas vrai.
Est ouverte. Mais
on peut revenir, mais moi je suis plutôt sur l'idée qu'une cure ne doit pas durer éternellement.
Combien d'années vous avez fait la cure vous-même ?
Moi, j'ai fait 8 ans d'analyse avec Octave Manoni. C'était un peu trop long. Mais
est-ce que vous vous dites à un moment, je m'en vais, c'est terminé ?
Oui, bien sûr.
Je suis moi-même.
Non, c'est pas comme ça.
Donc
ça
ouvert,
se termine avec un accord. Ça se termine parce qu'on sent que c'est fini. Alors, tout dépend aussi qui on est. Il y a des gens qui ont besoin de revenir très longtemps, revoir leur analyste, mais c'est plus de l'analyse.
Est-ce que ça veut dire que la quête continue ?
Bien sûr.
Oui,
on peut
avec
le dire.
Quelqu'un
pas pour
ou en soi-même.
Pas pour tout le monde. Non. Il y a des gens qui arrêtent. Il y a des. Vous savez, du temps de Freud, les cures ne duraient pas longtemps. 6 mois maximum, avec des séances évidemment tous les jours. Ça dépend aussi du nombre de séances. Mais on ne peut pas dire que c'est la même analyse si les gens restent 15-20 ans. C'est autre chose. C'est un attachement, c'est un besoin d'aller reparler.
Et c'est toujours la recherche de soi.
Oui, de soi dans le rapport au monde et aux autres.
Et aux autres.
Comment me débrouiller avec mon histoire, avec le présent, comment me débrouiller? Parce que l'idée que je suis pour quelque chose dans ce qui m'arrive est fondamentale. On ne peut pas passer son temps à être paranoïaque, entre guillemets.
Qui c'est qui est paranoïaque aujourd'hui, d'après vous?
Je pense que Poutine est un vrai paranoïaque.
C'est-à-dire?
Mais attention, ce n'est pas parano. C'est qu'il est dans une logique, ça a été dit d'ailleurs, qui est hors de la réalité. Il se croit réellement en 1945, il croit qu'il va vraiment libérer, l'Ukraine du nazisme. Il ne faut pas se poser la question de savoir si c'est fin ou si c'est, si c'est fabriqué ou si c'est vrai. La question ne se pose pas.
Ouais.
C'est pareil. Oui, il y a toujours une logique paranoïa.
On peut en parler pendant longtemps et d'ailleurs on en parle plus longtemps. Mais moi je vais simplement dire que si je comprends bien, les patients espèrent dans le meilleur des cas, et après des cures qui sont courtes ou interminables, c'est que vous les conduisiez à leur émancipation, à peut-être la maîtrise de certains de leurs conflits intimes, à la sérénité et peut-être aussi à la liberté pour devenir, c'est ça qui est intéressant, autant que possible, maître et responsable de leur propre vie.
Oui, ça, c'est l'espoir de guérison totale.
Oui, c'est l'idéal.
Oui, c'est l'idéal.
Merci Elisabeth Rodinesco d'être venue. Je vous souhaite un bon dimanche.
Merci.
D'ailleurs, je le souhaite à nous tous.
Merci Jean-Pierre, merci Elisabeth Rodinesco. Demain, Jean-Pierre, vous recevrez Alexandra Goujon, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, politologue spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie. Tout de suite, l'actualité en bref avec Arthur Muriot.
Kiev a un avenir européen, c'est ce qu'a déclaré Ursula von der Leyen lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. La présidente de la Commission européenne en visite en Ukraine ouvre donc la porte à une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle a, dans ce sens, remis un questionnaire qui servira de base aux discussions futures. L'Union européenne inscrit sur sa liste noire les deux filles de Vladimir Poutine. Elles ont désormais interdiction d'entrer sur le territoire européen et leurs avoirs sont gelés jusqu'à nouvel ordre. Comme elles, 217 individus et 18 entités russes sont présents sur cette liste publiée au journal officiel de l'UE. Cette nouvelle sanction fait partie du cinquième train de mesures punitives des 27 à l'encontre de la Russie. Vous ne pourrez pas remplir vos impôts en ligne ce week-end. L'accès à la déclaration de revenus a été suspendu. En cause, selon le fisc, des erreurs de pré-remplissage. Le nombre de déclarations ou de contribuables touchés n'a pas encore été communiqué. Cette suspension devrait durer au moins jusqu'à demain. La baisse des cas de Covid-19 se poursuit en France. 148 768 nouveaux cas positifs ont été recensés hier. Une diminution assez faible qui ne permet pas encore, selon Santé publique France, d'affirmer que le pic de ce rebond épidémique est passé. À l'hôpital, le nombre de patients augmente avec 23 272 hospitalisations comptabilisées hier.
Dans un instant, la matinale week-end continue face à Guillaume Bigot. Ce sera Guillaume Perrault. Nous reviendrons entre autres sur la guerre en Ukraine, l'horreur chaque jour un peu plus. Et puis, nous parlerons du scandale des maisons de retraite Orpea avec un témoignage, vous l'entendrez, absolument bouleversant. A tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
À l'instant, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans la matinale week-end, c'est l'heure du face à Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Notre politologue est face à vous ce matin. Guillaume Perrault, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef de Figaro Vox. Une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 9 avril, toujours marqué évidemment par la guerre en Ukraine, et c'est l'horreur sur place au lendemain de ce massacre qui a fait 52 morts, dont 5 enfants, dans la gare de Kramatorsk, dans le Donbass. C'est un missile qui a explosé sur le parvis de la gare qui était bondée, car la population fuit la guerre. Moscou dément, mais sans réellement convaincre. La diplomatie française dénonce un crime contre l'humanité. On en parle juste après le rappel des faits, signé Mathilde Moreau.
Des peluches ensanglantées, des lunettes brisées, des valises abandonnées. Des objets du quotidien qui témoignent de la violence de l'explosion hier devant cette gare de Kramatorsk dans le Donbass, où des centaines de personnes tentaient de fuir la région. Ina était présente, elle travaille pour la Croix-Rouge.
J'escortais un groupe d'enfants âgés de 5 à 10 ans. J'avais 5 enfants et une fois nous avons entendu le premier bruit, puis une explosion. J'ai poussé les enfants dans un coin du bâtiment et je me suis allongée sur eux. J'ai eu de la chance, vraiment de la chance, parce qu'à un demi-mètre de moi se trouvait un homme qui a été complètement déchiqueté.
Très vite, les secours et volontaires arrivent sur place. Ils découvrent une scène chaotique.
Les gens couraient, criaient, pleuraient, priaient. C'était effrayant. Les voitures explosaient, c'était la panique partout. Je ne me reconnais pas aujourd'hui. Quelque chose m'est arrivé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ces gens qui sont sans jambes, sans bras, cette tragédie, cela m'a influencé psychologiquement.
L'attaque a fait au moins 52 morts, dont 5 enfants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande une réponse mondiale forte. De son côté, Moscou affirme ne pas être responsable de cette frappe.
Guillaume Bigot, il y a le martyr de Marioupol, il y a eu dimanche dernier le massacre de Boutcha, il y a aujourd'hui Kramatorsk. On a l'impression d'assister à une escalade quotidienne dans l'horreur.
Oui, et c'est malheureusement peut-être pas le... Ce n'est peut-être que le début, en réalité, parce que il est probable que les combats vont s'intensifier. La bataille du Donbass, si c'est une bataille, ça risque pas d'être une seule bataille, mais de s'étendre dans le temps, va donner lieu à une escalade. C'est toujours le mécanisme de la guerre. C'est-à-dire, on sait comment elle commence. Elle est utilisée au départ par des gens plus ou moins imprudents et responsables comme un outil, un instrument pour obtenir un certain objectif politique ou stratégique. Mais le problème de la guerre, c'est qu'elle monte aux extrêmes. Et qu'ensuite, elle a sa propre autonomie et elle a sa propre folie. Et donc, les enchères montent de part et d'autre. C'est-à-dire que là, ces images font que...
Elle nous serre le cœur,
elle nous empêche de respirer, c'est voir ces jouets d'enfants maculés de sang, c'est terrifiant. Mais ça veut dire que le prix de la paix s'élève de plus en plus. Ça, c'est un problème. Ensuite, il y a la question de la réaction, de la qualification de ces faits. J'ai entendu le ministre Le Drian parler de crimes contre l'humanité. Alors, il faut peut-être faire un peu de pédagogie et revenir à la base.
Joe Biden lui parle de crimes de guerre. Alors,
ça semble plus raisonnable. Disons qu'au moins, la Russie a envahi un pays souverain, comme les États-Unis l'ont fait d'ailleurs en Irak. C'est donc un crime d'agression, ce qu'on appelait à Nuremberg crime contre la paix, si vous voulez. C'est une agression illégale parce que soit vous avez une autorisation des Nations Unies pour faire ça, soit vous le faites sans mandat et vous déchirez le droit international et vous agressez un pays qui est souverain. C'est ce qu'a fait la Russie. D'ores et déjà, de toute façon, ça, c'est incroyablement condamnable. Deuxième point, ce sont des crimes de guerre. C'est-à-dire, il y a quand même un droit de la guerre et si vous visez des civils de manière en plus systématique, délibérée et volontaire, là, vous êtes dans le cas du crime de guerre. Donc on est probablement là-dedans. Le crime contre l'humanité, ça recoupe plusieurs catégories. Disons qu'il faut que ce soit sur ordre, d'abord, c'est un critère très important, et ensuite dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre toute population civile.
Il y a la méthode et l'échelle.
C'est ça. Et donc, soit, alors, dans Boutcha, par exemple, vous pouvez avoir des gens qui ont agi sur ordre, couverts par leur commandement ou pas couverts par leur commandement, on n'en sait rien encore. Vous pouvez avoir aussi, mais ça s'est déjà vu du côté ukrainien, là où il faut être extrêmement prudent, c'est pas pour minimiser la responsabilité de la Russie. Là où il faut être extrêmement prudent, c'est que si on est dans le cadre du crime de guerre, vous allez voir, on a déjà des crimes de guerre du côté ukrainien, et vous allez voir que c'est ce phénomène de montée aux extrêmes. Plus vous aurez de montée aux extrêmes, plus vous aurez aussi, hélas, inévitablement, des crimes de guerre du côté ukrainien. C'est pour ça qu'il faut, je pense, être extrêmement prudent.
Guillaume Perrault, on sait que plusieurs pays envoient déjà des enquêteurs sur place pour tenter de collecter des preuves de ces crimes de guerre. C'est-à-dire que à très long terme, on envisage peut-être des condamnations. Est-ce que c'est envisageable, réellement ?
Pour le moment, on comprend très bien que les opinions disent qu'il faut faire quelque chose et donc on se tourne vers la justice internationale. C'est tout à fait logique et compréhensible, justifié. Mais il faut bien voir de quoi il s'agit. Les crimes de guerre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on reproche à une armée de s'en prendre à des civils qui devraient être tenus à l'écart du conflit. C'est le droit de la guerre classique. C'est une infraction qui peut être jugée, qui est par la Cour pénale internationale. Mais la Russie n'a jamais ratifié le traité qui reconnaît la compétence de cette Cour pénale internationale.
Pas plus que les États-Unis, d'ailleurs.
Pas plus que les États-Unis. En revanche, l'Ukraine reconnaît la compétence de la Cour pénale internationale pour les faits survenus sur son sol. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer, disons, dans l'hypothèse la plus radicale, c'est que le procureur près la Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, pour parler clairement. Et évidemment, les Russes ne vont pas livrer leur chef d'État. Juridiquement, il n'y a pas d'immunité pénale pour un chef d'État en exercice si jamais il est poursuivi devant cette juridiction. Mais c'est totalement impossible qu'il soit livré. Il y a un précédent qui est celui du président du Soudan qui ne pouvait plus aller dans certains pays parce qu'il courait le risque, pour le coup, lui, sinon d'être arrêté. Mais enfin, il était dans une zone d'insécurité juridique qui pouvait le gêner. Mais même lui, alors qu'il a été renversé, il est aussi poursuivi pour des atrocités devant cette juridiction. Il n'a pas été livré par les autorités de son pays à ce jour. Il s'était engagé à le livrer, ils ne l'ont pas fait. Donc on invoque toujours le contre-exemple de Milosevic, l'ancien dirigeant serbe, Mais c'est un cas de figure qui reste assez isolé. Et quand il s'agit d'une puissance nucléaire et d'un membre permanent du Conseil de sécurité, ça me semble, pour tout dire, assez un peu vain, si vous voulez, un peu théorique. Compréhensible humainement et juridiquement, mais humainement et émotionnellement, politiquement, d'après nous, nos critères occidentaux, mais je ne pense pas qu'il faille en attendre grand-chose.
Vous avez commencé, Guillaume Bigot, par dire qu'on en était vraisemblablement peut-être qu'au début encore de ces horreurs. Il n'y a pas de limite?
Non, le principe de la guerre, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il y a un commandement, enfin, si le commandement est extrêmement dur... si les soldats sont extrêmement bien encadrés, les choses peuvent déraper. Mais vous savez, cet exemple est resté célèbre, malheureusement, dans la mémoire de l'armée américaine, parce qu'il a fallu 30 ans pour reconnaître un peu ces crimes aux États-Unis. Le 16 mars 1968, le 20e régiment d'infanterie des États-Unis, encore une fois, ce n'est pas pour exonérer ce que fait la Russie aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. Mais il y a 504 morts dans le village de Milley, enfin, il y a plusieurs villages, il y a deux villages. 504 morts, dont 109 ont de 0 à 7 ans. Ils ont été tués de sang-froid par des soldats américains, couverts par leur commandement direct, par leur officier direct. Alors, il y a trois soldats qui ont porté plainte, et à l'époque, aux États-Unis, ces soldats ont été qualifiés de traîtres par les membres du Congrès. Et il a fallu attendre 30 ans pour que les trois hommes qui ont dénoncé ces crimes soient reconnus enfin par la nation américaine. Donc, vous voyez, on est pourtant dans le cadre d'une démocratie qui est a priori attachée aux droits de l'homme, etc. Je pense que cette charge, il faut faire très attention à la notion de crime contre l'humanité, à la charge émotionnelle qu'elle charrie, mais aussi au message que ça peut envoyer aux Russes, de l'autre côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le crime contre l'humanité est assez distinct en cela du crime de guerre, même si le crime de guerre est englobé dans le crime contre l'humanité. C'est quoi ? C'est vraiment la notion de génocide, en réalité. C'est ça qui est imprescriptible. La caractéristique du crime contre l'humanité, c'est qu'il est imprescriptible. C'est-à-dire, 30 ans après, vous pouvez quand même poursuivre les gens. C'est évidemment la Shoah, c'est le massacre des Arméniens, c'est les événements du Rwanda, ce sont les Khmers rouges. Voilà, on n'en est pas là du tout, si vous voulez. On a des crimes atroces, des civils innocents ciblés, etc., par des gens, ont-ils reçu des ordres pour terroriser la population, n'ont-ils pas reçu des ordres pour terroriser la population, on ne le sait pas. Malheureusement, oui, la tornade de violence qui va se déchaîner là dans le Donbass, on risque d'assister à des scènes vraiment atroces.
On va parler du 9 mai, qui est une date très importante pour Vladimir Poutine dans un instant. Les principaux titres de l'actualité d'abord avec Arthur Muriot, il est 8h30.
L'Agence de sécurité alimentaire belge a ordonné l'arrêt de la production à l'usine Ferrero d'Arlon. Cette décision fait suite à des dizaines de cas de salmonellose recensés dans plusieurs pays d'Europe après la consommation de chocolat Kinder. Le fabricant italien reconnaît des défaillances internes et a présenté ses excuses. Le groupe a aussi reconnu qu'il avait détecté dès le 15 décembre une contamination au salmonelle de ses produits dans cette usine de Belgique. Les ONG Amnesty International et Human Rights Watch sont désormais exclus du registre officiel des organisations non gouvernementales étrangères en Russie en raison d'une violation de la législation du pays. L'annonce de la fermeture de leurs bureaux locaux a été faite dans un communiqué du ministère de la Défense russe. Les deux organisations ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient poursuivre leur travail dans le pays. L'armée israélienne a carte blanche pour vaincre la vague terroriste. Cette annonce de Naftali Bennett intervient au lendemain d'une attaque meurtrière perpétrée par un Palestinien à Tel Aviv. Le premier ministre israélien donne donc une liberté d'action totale aux forces de sécurité et indique qu'il n'y aura pas de limite à cette guerre. 31e journée de Ligue 1 marquée par la victoire de Lorient face à Saint-Etienne 6-2. Ce match d'ouverture avait pourtant mal commencé pour les Merlus cueillis à froid par deux buts, mais ils ont répondu avec notamment deux doublés d'Ibrahima Koné et Terem Moffi. Lorient qui a désormais 4 points d'avance sur les Verts et 8 sur Bordeaux et Metz.
Merci Arthur. Chaque année en Russie, le 9 mai, on célèbre le jour de la victoire. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. C'est cette victoire contre l'Allemagne nazie. Il y a de grandes cérémonies patriotiques qui sont organisées à cette occasion, bien sûr par Vladimir Poutine. Autant dire que cette année, le 9 mai prochain, va être une date très importante. C'est dans un mois tout juste. Et ce sont les services de renseignement américains, Guillaume Bigot, qui annoncent que Vladimir Poutine va vouloir, précisément pour cette date, décrocher, sinon une grande victoire, en tout cas un succès militaire qui soit suffisamment marquant pour les esprits et pour son opinion en Russie.
Oui, c'est logique. Il y a dans la figure de Vladimir Poutine, qui est un homme des services, qui s'appuie sur ce qu'on appelle en Russie des ministères de force qui portent bien leur nom, notamment le ministère de la Défense, mais pas seulement, le ministère de l'Intérieur, etc. C'est un pouvoir qui met en scène par opposition d'ailleurs au monde occidental, le caractère très, très vertical, mais régalien et brutal du pouvoir, enfin qui assume finalement la dimension de brutalité du pouvoir. Et donc pour un dirigeant de ce type, avec une légitimité de ce type, effectivement, s'il y a un échec militaire, ça peut être compliqué. Là, on peut pas difficilement comparer la junte argentine à Vladimir Poutine, parce que même si on n'aime pas Vladimir Poutine, force est de constater qu'il bénéficie quand même d'un large soutien, de ce qu'on peut en savoir, de son opinion.
On y reviendra d'ailleurs.
Si les élections sont des élections avec beaucoup de guillemets, hein, c'est quand même pas des élections libres, on est bien d'accord. Il a néanmoins été élu, et malheureusement, que ça nous plaise ou non, il bénéficie d'un large soutien. Donc on ne peut pas comparer ça à la junte argentine. Néanmoins, quand la junte argentine, à bout de souffle, notamment économique, s'en était prise aux Malouines au début des années 80, eh bien un échec militaire n'a pas permis à ses généraux de rester au pouvoir. Autrement dit, l'échec militaire est généralement fatal à ce genre de régime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toute la machine de propagande poutinesque pour justifier l'invasion de l'Ukraine, c'est la dénazification. Or, qu'est-ce qu'on célèbre le 9 mai ? On célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Alors, et là, derrière, il y a aussi une espèce de pomme de discorde entre le monde occidental et le monde russe. Et quelque chose d'assez profond. Pourquoi ? Parce que on a oublié que les Soviétiques, alors les Russes en particulier, mais dont les Ukrainiens d'ailleurs aussi, ont payé le prix le plus lourd pour arrêter, pour le coup, les crimes contre l'humanité, l'Allemagne nazie. 27 millions de morts. Si vous interrogiez les gens au lendemain de la libération de Paris, tout le monde savait très bien que la libération de la France était d'abord due au sang versé par les Russes, autant, beaucoup, beaucoup plus qu'au sang versé par les alliés du côté anglo-saxon. Et donc, le fait qu'on n'ait pas, si vous voulez... d'une certaine façon, on a snobé aussi des anniversaires très importants pour les Russes de cette grande guerre patriotique, qu'ils appellent grande guerre patriotique, mais qui est en fait la victoire de l'humanité contre le nazisme aussi et contre le militarisme japonais. Donc ça, je pense qu'on a échappé, enfin on a raté une occasion d'une certaine façon de raccorder, disons, les Russes à la communauté internationale et en particulier aux Occidentaux. Et enfin, le troisième point, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que cette propagande consistant à dire les Ukrainiens sont des nazis, c'est ça qui justifie et qui légitime du côté de l'opinion russe. Donc effectivement, les Américains ont raison, ils risquent de vouloir, pour le 9 mai, au moins avoir une victoire à donner à son opinion publique.
Guillaume Perrault, donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à une accélération encore plus que ce à quoi on assiste à présent en termes de violence.
Oui, nous on est habitués au 8 mai parce que c'est un jour férié. Oui. Chez eux c'est le 9 mai, pourquoi ? Parce que le 8 mai 45, la capitulation allemande a été signée à Reims. Et Staline était furieux, il voulait que ça se passe à Berlin. Donc il a fait refaire une cérémonie de signature avec le représentant des Allemands à Berlin le lendemain. Donc c'est le pour 9. Ça que chez eux, c'est pour ça que c'est chez eux, là, c'est le 9 et non pas le 8 qui est célébré. Alors, rappelons-nous que pour les 75 ans du 8 mai 45, c'était en 2020, il y a eu une parade militaire, mais incroyable, d'une précision, d'une minutie impeccable. Ils sont toujours très forts pour ce qui est du spectacle. Vous voyez,
c'est après, une vraie démonstration de
force. C'est aussi le problème des Russes, c'est qu'ils veulent en mettre plein la vue. Et puis, quand vous regardez les coulisses, souvent, c'est beaucoup plus... Il y a de l'incurie, de l'anarchie. Il y a quand même un côté village Potemkin, parce que ces parades magnifiques ne donnent pas forcément des résultats remarquables sur le terrain. Quand il y a une guerre, on le voit. Mais effectivement, pour une autocratie, une défaite militaire ou simplement un enlisement, ça peut être catastrophique. En 1905, la première révolution russe survient à Saint-Pétersbourg parce que les Russes ont été battus par les Japonais dans la guerre russo-japonaise sur terre en 1904, sur mer en 1905. La guerre de Crimée, ça a été une catastrophe pour les Russes dans les années 1850 et le tsarisme a été humilié et ébranlé et le nouveau tsar Alexandre II a fait un train de réformes considérable. C'est là qu'il abolit le servage. C'est l'abolition du servage en Russie, c'est en 1861, c'est une conséquence directe de la défaite militaire des Russes en Crimée. Parce que c'était une humiliation pour les Russes, ils ont pris conscience de leur retard technologique face aux pays occidentaux. Je rappelle que la guerre de Crimée s'opposait pour l'essentiel les Anglais, les Français et les Ottomans d'ailleurs, et d'un côté puis les Russes de l'autre. Donc, tout ça pour dire que les Russes ont toujours sacrifié leur bien-être personnel et le bien-être de leur population à des objectifs de grandeur. La priorité, c'est la grandeur. Donc, il faut absolument que en effet, Poutine puisse se prévaloir d'une semi-victoire, en tout cas. J'ajoute que la Russie n'est pas un État-nation à l'occidental. C'est un empire. Un empire. C'est très différent. Avec des nationalités. C'est quoi un empire ? C'est une logique d'expansion territoriale qui fédère autour de lui des peuples éventuellement très différents sous une autorité commune et qui a vocation à s'étendre sans cesse. Poutine se prétend le rassemblement des terres russes, c'est le vocabulaire officiel. Et il y a un autre aspect qui, à mon avis, n'est pas assez évoqué, c'est la démographie. Il y a un hiver démographique en Russie. La fécondité est très faible. 1,5 par femme. Le pays vieillit. Et ils étaient 145 millions. Ce n'est pas grand-chose par rapport à leur surface. Vous voyez, c'est le plus grand pays du monde, il y a quelques années. Et quel est le grand motif de fierté pour les Russes quand ils ont annexé la Crimée en 2014 ? C'est qu'il y avait 2 millions de Russes de plus. Hein ? Le nombre est facteur de puissance. Donc, si Poutine peut dire « on est 1 million de plus parce qu'on annexe le Donbass », c'est une grande victoire politique vis-à-vis de sa population, parce que ça donne le sentiment d'enrayer un déclin démographique qui les préoccupe énormément.
C'est très, très important.
Elle est fondamentale, cette notion de grandeur, parce que nous, avec notre conception à l'occidentale, on attend, et avec ce train de sanctions qui n'en finit pas, on attend à ce que la population russe rebelle, se lève contre Vladimir Poutine. Or, ça n'arrive pas du tout. Et même plus loin, il y a un article qui est très intéressant dans le Figaro, et qui explique que, selon des experts, interrogé par l'Institut français des relations internationales, eh bien, plus la guerre avance et plus la popularité de Vladimir Poutine croît en Russie.
Alors, sur la question des sanctions, oui, de toute façon, si ça avait fonctionné contre l'Iran, on s'en serait aperçu. Si ça avait fonctionné contre la Corée du Nord, on s'en serait aperçu. Donc, en général, ça ne fonctionne pas. Mais là, en plus, notamment la question des oligarques. Alors on dit oui, mais alors, frapper la population, c'est vrai, ça va souder la population derrière Vladimir Poutine, derrière le pouvoir. Il y a cet aspect de sanctions économiques, mais il y a aussi une dimension culturelle. Quand on interdit Rachmaninov, quand on sanctionne la culture russe, le Bolchoï, etc., la réaction des Russes, elle consiste à dire, mais écoutez, nous n'interdirons pas Shakespeare, parce que nous sommes pour la civilisation et pour la culture. Vous, en fait, vous affaiblissez, vous affaissez dans la bêtise, dans l'abrutissement et dans l'émotivité. Nous, on fait la différence. On a des ennemis, mais on ne fait pas la guerre à une civilisation et à un type de société. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas de ce côté-ci, mais qui est assez important. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de russophobie qui s'emballe de manière vraiment assez étrange. Bon, parce qu'on peut détester Poutine et ne pas détester la culture russe. Il ne faut pas détester la culture russe, qui est une des grandes cultures humaines. L'autre point, ce que disait Guillaume Perrault, est très 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 juste. C'est-à-dire que la révolution russe, les révolutions russes, il y en a eu plusieurs, celle de 1905, ensuite une autre révolution démocratique un peu plus en 17, puis enfin le putsch, l'espèce de putsch de Lénine, parce qu'en fait c'est un putsch en réalité. Lénine, c'est vraiment une sorte de dictateur sud-américain qui a pris le pouvoir par les armes. Donc, toutes ces révolutions-là sont des révolutions qui sont nées de la défaite. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que le moment où la Russie va s'ouvrir, disons, à des conceptions occidentales, puisque le communisme aussi, finalement, était une conception occidentale, c'est sous le poids de la défaite. Et ça, c'est très important. Regardez par rapport à la Révolution française. Nous, notre champ révolutionnaire, c'est un champ de guerre, c'est la Marseillaise, mais c'est un champ de victoire aussi. Mm-hmm. La Révolution française, elle est victorieuse à Valmy. La Révolution russe, elle naît de la défaite et d'un rétrécissement de terrain. Et c'est pour ça que vous avez en Russie cette idée consistant, enfin la fameuse dialectique, l'opposition entre les slavophiles d'un côté, ceux qui disent que la Russie, elle ne doit pas être influencée par l'Occident, par les idées occidentales qui sont décadentes, etc., se recentrer sur ses fondamentaux, et de l'autre, des occidentalistes, dont faisait partie au début M. Poutine, et tout le clan de Saint-Pétersbourg autour de Boris Yeltsin, qui étaient des gens qui étaient tout à fait favorables à s'ouvrir au monde occidental, à se démocratiser, etc. Et en fait, vous voyez, c'est une espèce de malédiction russe, c'est que finalement, quand ils adoptent le monde occidental, ça tourne mal chez eux, comme en 1991, ou lorsqu'ils s'ouvrent au monde occidental, encore à nouveau en 1991, c'est parce qu'ils ont perdu, finalement.
Il y a un respect de la force en Russie qu'on ne mesure pas, forcément, Guillaume.
Oui, il y a un grand respect de la force par les Russes, y compris ceux qui ne sont pas particulièrement des sympathisants de Poutine, mais c'est dans leur culture. Alors, sur l'état des esprits aujourd'hui en Russie, C'est difficile de le savoir parce que tous les canaux démocratiques ont été coupés par le régime. Donc il n'y a plus de vie démocratique, il n'y a plus de pluralisme, il n'y a quasiment plus rien. Tous les médias d'opposition sont muselés. Vous pouvez aller en prison et vous faire casser la figure dans la rue par les nervis du régime si jamais vous défilez, donc si jamais vous manifestez pacifiquement contre la guerre. Donc c'est très difficile de savoir ce que pensent les gens. Cependant, il y a encore quelques instituts de sondage dont les correspondants occidentaux assurent qu'ils sont indépendants. Voilà. Et alors, c'est absolument écrasant.
À 80%.
Le soutien de la population russe est écrasant. C'est humainement compréhensible. Votre pays est en guerre, vous le soutenez automatiquement. Et en plus, ils sont soumis à une propagande éhontée, mais absolument folle. Quand vous regardez la télévision publique russe aujourd'hui, c'est absolument extravagant. On a l'impression que toute l'Europe de l'Ouest est aux mains de nazis qui veulent du mal à la Russie. On est quand même... il faut voir la violence des propos tenus contre l'Occident. Souvent, on se dit, mais on ne leur a rien fait. Pourquoi est-ce qu'ils nous haïssent
à ce point-là.
Et vraiment, le vocabulaire, je ne parle pas du russe moyen, mais le vocabulaire des relais du régime est un vocabulaire haineux envers l'Occident. Ça m'attriste beaucoup de le constater, mais on est obligé de faire ce constat.
Dans ce contexte, Ursula von der Leyen est arrivée hier en Ukraine. Elle s'est rendue dans la ville martyre de Boutcha et à Kiev, la capitale également. La présidente de la Commission européenne s'engage à offrir à l'Ukraine une procédure d'adhésion rapide à l'Union européenne. Sibylle Delettre.
Elle est d'abord venue se recueillir devant les victimes du massacre de Boutcha. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, était hier en Ukraine pour montrer le soutien inconditionnel de l'Europe.
L'Ukraine appartient à la famille européenne. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous apporter une première réponse positive. Dans cette enveloppe, cher Volodymyr, un pas important vers votre adhésion à l'Union européenne.
Après la demande officielle faite par l'Ukraine le 28 février dernier, ce questionnaire est donc une nouvelle étape. Mais face aux atrocités qui se multiplient dans son pays, Volodymyr Zelensky a appelé l'Union européenne à être encore plus ferme.
Je pense que la complaisance avec laquelle certains occidentaux traitent encore l'État russe est une erreur. Nous savons qu'il essaie constamment de modérer les propositions des sanctions et nous ferons de notre mieux pour faire enfin comprendre à l'Europe que dans tous les cas, nous devrons imposer des sanctions vraiment fortes à la Russie.
Ce jeudi, l'Europe avait adopté une nouvelle vague de sanctions avec notamment un embargo sur le charbon ou encore l'interdiction pour les navires russes de venir dans les ports européens.
On en parle dans un instant avec Guillaume Bigot et Guillaume Perrault, mais d'abord les titres de l'actualité. Arthur Muriot.
Volodymyr Zelensky demande une réponse mondiale ferme après le bombardement de la gare de Kramatorsk. C'est dans un message vidéo qu'il a évoqué cette frappe qui a tué 52 personnes hier, dont 5 enfants. Le président ukrainien dénonce un nouveau crime de guerre de la Russie pour lequel chacun parmi ceux impliqués sera tenu responsable. De son côté, Moscou dément cette attaque et accuse une provocation ukrainienne. Comment faire si le gaz russe venait à manquer l'hiver prochain? C'est pour répondre à cette problématique qu'un décret est paru au journal officiel hier. Il prévoit une série de mesures, parmi elles, impossible le délestage, c'est-à-dire une interruption ou une réduction de l'approvisionnement pour certains gros clients industriels ou tertiaires. Ce dispositif de dernier recours ne concernera pas les particuliers et les services publics. Les Français de Shanghai ne pourront pas voter dimanche au premier tour de l'élection présidentielle. En cause, le confinement de la ville chinoise après une reprise de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Dans un communiqué, l'ambassade de France en Chine indique que malgré des demandes de dérogation, aucun bureau de vote ne pourra ouvrir. Elle précise que pour le second tour, tout dépendra de l'évolution des normes sanitaires locales. Will Smith ne foulera plus le tapis rouge des Oscars pendant les 10 prochaines années. L'Académie a décidé d'interdire la star américaine de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera pendant une durée de 10 ans. Cette décision vise à sanctionner l'acteur pour la gifle qu'il a assénée à l'humoriste Chris Rock en pleine cérémonie il y a quelques semaines. Toutefois, l'Académie précise qu'elle ne lui retirera pas l'Oscar du meilleur acteur.
Merci beaucoup Arthur. Une procédure d'adhésion à l'Union européenne, on le sait, c'est un processus extrêmement complexe. Il y a pratiquement une dizaine de pays qui tapent à la porte de l'Europe depuis un moment maintenant sans pouvoir y entrer. Guillaume Bigot, c'est de l'affichage. On ne va pas passer de 27 à 28 ou à 35 comme ça du jour au lendemain.
Oui, c'est de la com. C'est de la com, mais c'est de la mauvaise com parce que ça met en scène d'une certaine façon l'impossibilité... ça crée un faux espoir d'une certaine façon, et ça fait le pari que l'opinion publique a une mémoire de poisson rouge, parce que dans les mois qui viennent, évidemment, il n'y aura pas d'adhésion, et dans les années non plus, pour une raison simple, vous l'avez dit vous-même, il y a une file d'attente assez importante. Un pays qui s'appelle la Turquie, il fait déjà des décennies qu'il tape à la porte de l'Union européenne, les pays des Balkans, etc. Mais il y a aussi des conditions formelles, administratives, techniques, juridiques, pour adhérer à l'Union européenne. Et la démocratie ukrainienne, même s'il y a un effort de démocratisation de l'Ukraine, est une démocratie vraiment très, très imparfaite, pour utiliser un euphémisme. Donc finalement, qu'est-ce que fait Mme von der Leyen? Elle fait de la com, on comprend. Ce qui est curieux quand même, c'est que la question centrale, c'est la question du gaz et du pétrole. C'est là-dessus qu'il y aurait pu y avoir vraiment une rupture. Et si on parlait de « Ah, l'Europe s'est enfin fâchée », c'est donc que l'Europe n'achèterait plus de pétrole et pas de gaz à la Russie. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe ? Volontarisme, saut de puce, grand roulement de tambour et on avance d'un micro-millimètre, on n'achète plus de charbon. Oh, alléluia, fantastique. Donc là encore, il y a une mise en abîme de l'impuissance organisée de l'Union européenne. Et puis enfin, il y a la question importante, on va sans doute y revenir, des livraisons d'armes et des aides, l'aide financière, 500 millions qui ont été débloqués pour l'armement. Il y aurait pas mal de choses à en dire, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce qui frappe beaucoup, c'est la synchronicité entre les décisions de la Maison-Blanche et les décisions de Bruxelles. C'est-à-dire lundi, vous avez Washington, mardi, vous avez Bruxelles. Sur tous les sujets, c'est la même chose. Donc on voit bien qui commande l'Union européenne.
D'un mot, Guillaume Perrault, on est plus dans le symbole que dans une réalité.
Oui, mais ça répond à une demande très forte des Ukrainiens. C'est-à-dire que le choix stratégique des Ukrainiens depuis Maïdan, l'insurrection 2014 qui a eu lieu, c'est de se détourner du monde russe, j'y reviens toujours, et de se tourner vers l'Europe en disant on a une aspiration nationale, on veut être indépendant depuis le 19e siècle au moins. Les Russes nous ont toujours opprimés du temps de l'Empire des Tsars, on appelait ça la prison des peuples, la prison des peuples, l'Empire des Tsars, c'était le vocabulaire du 19e siècle. Puis à l'époque soviétique, à de courtes exceptions près. Donc, les trois quarts des Ukrainiens votent pour des partis pro-européens. Il y a un parti pro-russe, mais il est substantiel, mais minoritaire. Donc, c'est aussi la présidente de la Commission. Elle répond aussi à une demande de la majorité. Il faut bien quand même apporter un peu d'espoir, même si c'est lourd de conséquences géopolitiques. Mmh. Juste un mot. Dans la série qui a fait la célébrité de Zelensky, il s'appelle Serviteur du peuple. C'est vraiment à voir, c'est très étonnant. Tout ce qui évoque
un décalage,
tout ce qui évoque la Russie, tout ce qui évoque la Russie, voilà. Oui. C'est, et à un moment, Zelensky fait un cauchemar. Le personnage, il joue le président de l'Ukraine. Il fait un cauchemar et il rêve que Pierre Legrand le prend dans ses bras. Le tsar, en disant « Mais tu es de la famille, tu es un frère, tu fais partie du monde. » Et il l'étouffe. Et Zelensky se réveille et il se rend compte qu'il a fait un cauchemar. Et ça, c'est le rôle qu'il interprète dans cette série. C'est quand même extrêmement étonnant. Et c'est un peu par anticipation ce qu'ils vivent maintenant.
Pour le moins étonnant, oui. Pour ne pas dire effrayant.
Effrayant, oui.
Le Covid, on en parle, vous avez entendu tout à l'heure dans le rappel des titres que 200 millions de Chinois sont actuellement confinés dans des conditions drastiques, alors que chez nous, les feux semblent repasser au vert, le pic du rebond semble derrière nous. On va en parler avec le professeur Philippe Amouyel. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer. On a entre 140 et 150 000 cas quotidiens, mais on entend de plus en plus que ça y est, avec l'immunité collective, on est préservé. Est-ce qu'on l'est réellement et est-ce qu'on est en train de passer, cette fois vraiment pour de bon, de la pandémie à un virus endémique?
Alors, ce qu'on est en train de vivre, c'est le début du passage vers une forme endémique du virus. On a eu un pic, là, actuellement, qui est tout à fait attendu, puisque d'autres pays l'ont eu, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Danemark, alors plus tôt que nous, parce qu'on est un peu en avance, en retard de phase, et c'est peut-être une bonne chose. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est ce pic diminuer grâce, en fait, au nombre de personnes qui ont été infectées par ce nouveau variant, qui est le variant BA2, et également par le taux de vaccination qu'a la France. Donc on rentre dans une phase où le virus va être présent, circuler, mais à une tendance plus faible, et on risque de voir très régulièrement des pics comme ceux qu'on a connus. Donc c'est ça la phase endémique, et qu'on devrait atteindre, si tout se passe bien, aux alentours de mai probablement.
Donc ça veut dire que l'arrivée de nouveaux variants, il y en a un par exemple au Royaume-Uni, là, le XE, ne doit pas nous faire peur.
Alors, ce n'est pas qu'il ne doit pas nous faire peur, c'est qu'il faut rester prudent, surtout qu'on est encore en phase, on va dire, convalescente par rapport à notre descente. Mais en revanche, on va mieux y résister et on n'aura plus besoin de recourir à des confinements massifs comme on les a connus. On a les outils, la population a les outils de la résistance.
Si je comprends bien, c'est presque fini, là.
Alors, tout dépend ce que vous appelez fini. Si fini, c'est retrouver le monde d'avant sur le plan sanitaire, non. En revanche, fini si on ne risque plus d'être secoué par des crises sanitaires comme on les a connues à cause du variant du Covid. Oui, on va en sortir tout doucement et on va rentrer dans une phase un peu comme ce qu'on connaît pour la grippe.
Ben merci beaucoup, professeur Philippe Amouyel, d'être intervenu dans la matinale week-end. Guillaume merci Bigot, c'est un vrai soulagement.
Ah, c'est plus qu'un soulagement, c'est une très 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 bonne nouvelle, mais je pense qu'on va... la convalescence dont parle le professeur, c'est convalescence par rapport à notre peur. On est convalescent de notre peur, en fait. Mais c'est un peu la phrase de Kennedy aussi, il n'y a de peur que la... Il faut avoir surtout peur de la peur, en fait. C'est ça qui est très dangereux, c'est la peur.
Indéniablement, ça laissera des traces.
Ça laissera des traces. Et puis, il faut qu'on conserve tous nos réflexes pour ne pas revenir au sentiment de confort et de sécurité qu'on avait avant. Et c'est très difficile. Avant que dès que la pression diminue, on est tous tentés de considérer que c'est terminé. Or, ça nous invite à un état de vigilance permanent.
Néanmoins, le confinement drastique de Shanghai est quand même très inquiétant.
Avec cette stratégie zéro Covid.
Est-ce que les Chinois ont des informations sur ce virus que nous n'aurions pas? Mais pourquoi surréagissent-ils tous toujours autant? C'est ça la question qu'on pourrait se poser.
C'était pour tenir l'objectif peut-être de Xi Jinping qui a toujours été COVID, zéro Covid. Et
utiliser le Covid comme un moyen de contrôle de la population, peut-être aussi, espérons-le.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci Guillaume Perrault, Guillaume Bigot. Vous restez évidemment avec nous. On vient dans un instant pour toute l'actualité sur CNews. Sur Europe 1, vous retrouvez Thierry Dagiral avec Frédéric Taddeï. Bon samedi, à tout de suite.
Et merci Isabelle Moreau. On vous retrouve bien sûr demain et on accueille en effet Frédéric Taddeï. Bonjour Frédéric.
Bonjour Thierry Dagiral.
C'est arrivé cette semaine. Au programme.
Quels sont les obstacles que rencontrent les journalistes qui couvrent la guerre en Ukraine? On va voir ça avec Manon Kerouille-Brunel et Alvaro Canovas de Paris Match qui reviennent de là-bas. Le dernier rapport du GIEC avec Céline Guivarch qui fait partie des scientifiques qui l'ont rédigé. Et vous avez vu que Kylian Mbappé a refusé de se prêter à des opérations commerciales au profit de l'équipe de France. Non, ce n'est pas un caprice de star. Vincent Duluc de l'équipe va nous expliquer pourquoi.
Programme passionnant, à tout de suite Frédéric, dans un instant sur Europe 1. Toute l'info à 9h à la une. La gare de Kramatorsk bombardée en Ukraine, la grippe aviaire en Vendée. A tout de suite sur Europe 1.